Mon corps, ma santé, un outil pour Dieu ou pour moi? Ce n'est pas un sujet facile qui m'a été proposé, mais je l'ai accepté, car il est à la fois illimité, particulier, si vaste et si singulier que chacun se sent concerné. Mon corps, ma santé. En commençant, permettez-moi une petite confidence. Quand j'étais petit, et oui, un jour j'étais petit, je pensais fermement mais candidement que je ne serais jamais souffrant et que je ne prendrais jamais de médicaments. À ce jour, j'ai subi une dizaine d'interventions chirurgicales et je suis obligé de prendre chaque jour 6 médicaments différents pour obtenir une relativement bonne santé et je suis persuadé que ce n'est rien par rapport à beaucoup d'entre nous cet après-midi. Mon corps, ma santé. Ce sujet présente tant d'implications et d'applications qu'il sera impossible d'en faire le tour en 45 minutes, mais nous allons essayer d'en dégager les idées maîtresses. Quels que soient les thèmes abordés, les idées développées, je désirais, en commençant, vous présenter un souhait sincère que nous retrouvons d'ailleurs sous la plume de l'apôtre Jean dans sa troisième épître et au verset 2. Je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Que ce soit vraiment votre part à chacun et à chacune. Alors, comment allons-nous aborder le thème qui nous a été proposé? Dans un premier chapitre, j'aborderai le thème de la prise de conscience du moi. Dans un second chapitre, l'influence du monde. Dans un troisième chapitre, notre attitude face à la maladie, à la souffrance et à la mort. Et dans un quatrième chapitre, ce qui résumera un peu ce que Jean et Joël nous ont présenté ce matin, revenir à un bon équilibrage. Qu'est-ce que l'équilibre chrétien dans ce domaine? Tout d'abord, quelques pistes de réflexion pour définir le moi. Avec Raymond Devos, artiste comique, formidable jongleur de mots, mais malheureusement moqueur, sourions. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Avec René Descartes, mathématicien, physicien, philosophe français du XVIIe siècle, réfléchissons. Cogito ergo sum, je pense donc je suis, dans son fameux discours sur la méthode en 1637, réflexion qui amènera le philosophe à passer du doute à la première certitude, cogito je pense, et de là à la démonstration de l'existence de Dieu, et enfin à la déduction de l'existence du mal. Avec Juvénal, artiste latin du IIe siècle après Jésus-Christ, critiquant les mœurs corrompues de Rome, déclarons avec lui « mens sana in corpore sano », une âme saine dans un corps sain. Dans la pensée de l'auteur, l'homme vraiment sage ne revendique du ciel que la santé de l'âme avec la santé du corps. Si je résume ces trois auteurs, j'en déduis que l'homme éprouve un besoin d'identité. Qui suis-je? Suppose une destinée, où vais-je? Manifeste une certaine intelligence, je pense, donc je suis, et aspire à se sentir bien, en bonne santé physique et mentale, une âme saine dans un corps sain. Ces pistes de réflexion laïque ne nous éloignent pas outre mesure de la description que la Bible, révélation de Dieu, nous donne de la personne humaine. 1 Thessaloniciens 5, 23, que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu ajoute cette précision toute chirurgicale, Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Ainsi donc, bibliquement parlant. Notre moi nous est présenté constitué de trois composantes essentielles, esprit, âme, corps. Esprit, ruach en hébreu, pneuma en grec. C'est la partie immatérielle, immortelle, éternelle, la plus élevée de notre être. Elle nous met en contact direct avec l'Esprit de Dieu. Zacharie 12, 1. Ainsi dit l'Éternel qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre et qui a formé l'Esprit de l'homme au-dedans de lui. 1 Corinthiens 2, verset 12. Mais nous, nous avons reçu non pas l'Esprit de l'homme, mais l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, communiquant les choses spirituelles par des moyens spirituels. Deuxième aspect de notre moi, l'âme. Nefesh en hébreu, psyché en grec. C'est la partie intime de notre être, notre fort intérieur. C'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de nos réflexions, de nos sentiments. Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière de sol, souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le corps, soma en grec, c'est la partie matérielle, mortelle, corruptible, périssable. Lorsque Dieu a créé Ève, Adam peut dire « Cette fois, celle-ci est eau de mes os et chair de ma chair ». Job 10, verset 9, « Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme l'argile et que tu me feras retourner à la poussière. » L'homme est poussière, il retourne à la poussière, mais le corps mortel est transformable. Philippiens 3, verset 20, « Nous attendons le Seigneur Jésus comme sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité de son corps de gloire. » Notons bien que esprit et âme sont souvent cités dans la parole l'un pour l'autre. Mais âme, toujours dans le sens d'esprit de vie, en relation avec cette vie éternelle. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, Ecclésiaste 12, verset 7, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 5, verset 5. Aux yeux de Dieu, donc, et selon sa justice, le « moi », à cause du péché, est fondamentalement mauvais. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Et ce « moi » se révèle incapable d'une conduite parfaite. L'apôtre Paul déclarera, à la fin du chapitre 7 de l'Épître aux Romains, « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. » Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. D'où ce cri de la détresse humaine, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Romains 7, verset 24. Et la réponse est divine, éternelle. Romains 5, verset 20. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Romains 6, verset 23, le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Sauveur. Et enfin, Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Deuxième volet de notre étude, l'influence du monde, dont on a déjà dit quelque chose ce matin. Tout d'abord, attardons-nous à la perversion du monde. D'une part, la parole de Dieu nous enseigne, Jacques 4, 4, « L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. » Et encore, 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Mais d'autre part, Jésus, dans sa prière, en Jean 17, peut demander à son Père, « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. » Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Ainsi donc, qu'est-ce que le monde, avec tous ses excès, nous propose en tant qu'être humain? Et en contrepartie, qu'est-ce que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous conseille? Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas retirés du monde, mais nous devons y vivre malgré la perversité du monde. À l'ère de la surconsommation tous azimuts, dont le seul but est de satisfaire des appétits financiers démesurés, comment rester fidèle au Dieu saint, le Créateur, qui désire le bien de toutes ses créatures? Car en effet, Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Est-ce que, sous l'influence néfaste d'un monde corrompu, je me laisse entraîner à la déification de mon corps? Philippiens 3, verset 18, « Car plusieurs sont ennemis de la croix du Christ, dont la fin est la perdition et dont le Dieu est le ventre, et qui ont leur pensée aux choses terrestres. » Ou est-ce que, avec foi, je parviens à maintenir mon corps consacré à Dieu? Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » En effet, le monde, dans sa perversion, a très bien compris tout l'intérêt qu'il pouvait tirer de l'asservissement futile du corps humain, car, qu'on le veuille ou non, du berceau au cercueil, nos corps évoluent, soit en bien, soit en mal. En bien, tout d'abord, citons quelques aspects positifs de l'évolution de nos corps. Le corps se développe, se soigne, s'entretient, s'habille, se modifie. Il se développe. Nous naissons à l'état de nourrisson, nous devenons un petit enfant, puis un adolescent, puis un adulte, puis un vieillard. Physiquement, moralement, spirituellement, il y a une élévation. L'exemple parfait, toujours le même, le Seigneur Jésus. Luc 2, 52, Jésus avançait en sagesse sur le plan moral, en stature sur le plan physique, en faveur sur le plan spirituel, auprès de Dieu et des hommes. Que ce soit aussi notre part à chacun. Le corps se soigne. Lorsque je suis malade, je prends des médicaments. Si j'en viens à connaître la fracture d'un os, je suis obligé d'être hospitalisé. Éphésiens 5, 29, « Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin. » Le corps s'entretient. Nous avons des mesures fondamentales d'hygiène. Se laver régulièrement. Des exercices physiques, mentaux, spirituels. Même si l'apôtre Paul, écrivant à Timothée, peut lui dire « l'exercice corporel est utile à peu de choses », il ne lui interdit pas non plus. Et les facultés de médecine, maintenant, nous le recommandent fortement. Il y ajoute « attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement ». Il y a donc un entretien physique, moral, spirituel, constant à apporter à nos propres corps. Le corps s'habille correctement. Nous mettons un costume, une tenue, des vêtements décents. Même si l'apôtre, écrivant toujours à Timothée, peut donner cette exhortation aux femmes, elle est tout autant valable pour les hommes que les femmes se parent d'un costume décent avec pudeur et modestie. Le corps se modifie, soit naturellement. Un état de grossesse, le corps est modifié, mais c'est naturel. Des régimes alimentaires adéquats pour que la santé soit bonne. Soit techniquement, pensons aux prothèses dentaires, pensons aux prothèses osseuses. Tout cela dans un bien naturel apporté au corps. Mais malheureusement, le monde a envahi ce que nous pouvons faire de nos corps. Le corps peut se transformer outrageusement. Voyons les excès de la chirurgie esthétique. Michael Jackson n'a-t-il pas voulu changer de couleur de peau? Or, Jérémie 13, 23, l'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches? Il est impossible également de changer sa taille. Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille, dira Jésus dans le sermon sur la montagne, Matthieu 6, 27. Le corps peut se négliger. Voyons toute la politique des loisirs, le cocoon, le wellness. Or, Proverbe 19, 15, la paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'âme négligente aura faim. Le corps s'abîme, excès de fitness, excès de bancs solaires, risque de cancer. Le corps se colore, maquillage excessif et vulgaire, tatouage envahissant. Le corps se cache. Nous mettons des masques à l'occasion de carnaval. N'y a-t-il pas une recherche d'un dédoublement de personnalité? On se cache de Dieu. Le corps se perce. Les piercings qui envahissent notre monde. Le corps se dénature. Homosexualité, transsexualité. Le corps se trahit. Les travestis. Le corps se découvre. Publicité dégradante de corps dénudés pour attirer les regards. Le corps se détériore volontairement. Abus d'alcool, tabac, surconsommation alimentaire et médicamenteuse, boulimie, anorexie, musique assourditante via Walkman, MP3, iPhone, détérioration de la vue suite à un abus d'utilisation de l'écran d'ordinateur. Le corps se mutile. Excision chez les femmes africaines, le corps se détruit, les drogues, les suicides. Souvenons-nous que le présent siècle est mauvais et que Christ nous en a délivrés et retirés. Galates 1, verset 4, Christ s'est donné lui-même pour nos péchés en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Ainsi donc, soyons excessivement prudents et ne nous laissons pas séduire par la publicité mensongère omniprésente dans nos foyers via les médias qui sont à notre disposition, car cette publicité idolâtre le corps humain. Elle magnifie l'image du corps idéal, de l'homme idéal, de la femme idéale, prototype factice de notre monde moderne. Mais à quel prix ? Régime alimentaire intensif, voyez tous les mannequins anorexiques dans les défilés de mode. Les soins de beauté excessifs, bronzage artificiel, sauna. La gymnastique à outrance, les salles de sport n'ont jamais connu autant de succès qu'à présent. Le sport est d'ailleurs considéré comme la nouvelle drogue de notre monde moderne, même comme une nouvelle religion. Et les régimes survitaminés, stéroïdes anabolisants. Notre position en tant que chrétien est d'en revenir à la dépendance de Dieu, tout en évitant tous ces excès destructeurs que nous venons d'énumérer. Nous devons bien admettre et reconnaître que d'une manière générale et irréversible, notre moi se dégrade lentement et inexorablement au fil des ans. Relisez le début d'Ecclésiaste 12, les 8 premiers versets, qui d'une manière poétique si jolie, si belle, décrivent la décrépitude du corps humain. 2 Corinthiens 4, 16 nous le rappelle également. C'est pourquoi ne nous lassons point, même si notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Concentrons-nous donc sur l'essentiel. Quel usage faisons-nous de notre moi ? Corps, âme et esprit, à qui accordons-nous nos priorités? Qu'est-ce que nous adorons dans le sens très fort d'aimer très très fort? Qui servons-nous réellement? À quoi sert notre corps? Luc 10, verset 7, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, 1 Samuel 7, 3, et servez-le lui seul. Prenons garde de nos propres convoitises, car, Jacques 1,14, chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Sachons lutter pour conserver notre intégrité physique, mentale et spirituelle au service exclusif de Dieu. Marc chapitre 9, à partir du verset 43, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. » Comprenons humblement que notre moi nous est simplement prêté par Dieu, qui nous demande d'en prendre soin pour sa propre gloire. 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. » 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Et que vous avez de Dieu ? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Et il y a la note J en bas de page qui ajoute « Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Puissions-nous sans cesse souhaiter comme David, psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise dans un pays uni, à cause de ton nom, ô Éternel, fais-moi vivre. » Et puissions-nous affirmer comme l'apôtre Paul, Philippiens 1, 21, « Pour moi, vivre, c'est Christ. » Quelques conseils judicieux. Pour parvenir à glorifier Dieu dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans ce monde des excès en tout genre, la parole nous vient en aide et nous suggère trois conseils efficaces. Déjà rappelé ce matin d'ailleurs. 1. La sobriété. Un dicton populaire nous avertit « L'abus nuit en tout ». La Bible nous le confirme. 1. Dans l'épître de Tite, au chapitre 2 et au verset 12, « La grâce de Dieu nous enseigne que, reniant l'impiété et les convoitises modernes, nous vivions dans le présent siècle mauvais, sobrement, justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Sobrement. Deuxièmement, la liberté. Second conseil qui nous est donné. Il convient de ne jamais se laisser asservir par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Car, Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. » Tout en recherchant le bon équilibre, 1 Corinthiens 6, verset 12, « Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai moi asservir par aucune. » Et enfin, troisième conseil, l'édification. 1 Corinthiens 10, verset 23, « Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. » Jude 20, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu. » Troisième étape de notre étude, face à la maladie, à la souffrance et à la mort. Il est particulièrement difficile et délicat d'aborder ce thème, car nos perceptions individuelles peuvent se révéler, selon les circonstances, tellement diverses, variables, voire même contradictoires et divergentes. Notre but consiste à éviter toute polémique à ce sujet et à fournir les idées maîtresses dignes d'enrichir et d'affermir notre foi. Envisageons tout d'abord les évidences bibliques à cet égard. Premièrement, Dieu reste le souverain, le maître absolu. Dieu tient véritablement tout dans sa main. Le bien-être comme la souffrance, la santé comme la maladie, la vie comme la mort. Et il agit envers chacun, chacune, selon son intelligence et sa miséricorde. Lamentations 3, versets 37 et 38. Qui est-ce qui dit une chose et elle arrive, quand le Seigneur ne l'a point commandée? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Deutéronome 32, verset 39. Voyez maintenant, dit l'Éternel, que c'est moi. Moi, le même, il n'y a point de Dieu à côté de moi. Moi, je tue et moi, je fais vivre. Moi, je blesse et moi, je guéris. Il n'y a personne qui délivre de ma main. Ézéchiel 34, verset 15. Moi-même, je paîtrai mes brebis et moi-même, je les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. La perdue, je la rechercherai. L'égarée, je la ramènerai. La blessée, je la banderai. La malade, je la fortifierai. Gardons bien à l'esprit que dans la pensée de Dieu, la maladie, la souffrance, la mort sont des conséquences directes et inéluctables du péché qui a envahi le monde. Romains 5, 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché, Romains 3, 23, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Cependant, Dieu ne laisse pas les choses en l'état. Il établit le constat, il délivre le jugement, mais il fournit lui-même l'aide et le secours appropriés. Romains 5, 20, là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ est donc le point central de notre libération. L'artisan de cette mise au point spirituelle, c'est lui, Hébreux 5, verset 9, l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. C'est Christ, le Fils unique de Dieu, Jean 1, 29, l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Mais à quel prix ? 1 Pierre 1, 18, vous avez été rachetés de votre vaine conduite, non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quelle est alors la position du chrétien? Suite à de telles affirmations, comment percevons-nous notre rapport à la souffrance, à la maladie, à la mort, sachant que Dieu dirige chacune de nos vies? Retenons les éléments suivants. Premièrement, aujourd'hui comme hier, Dieu a tout pouvoir pour guérir. Psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. Mais il peut aussi maintenir le malade dans son état. Souvenons-nous de l'écharde qu'avait l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur qu'elle se retira de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Dans l'un comme dans l'autre cas, le but recherché est le même. La gloire de Dieu. Souvenons-nous de Naaman, guéri, étranger aux promesses du peuple d'Israël, mais qui peut affirmer suite à l'intervention d'Élisée, 2 Rois, chapitre 5, verset 15, « Voici, je sais qu'il n'y a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël. » Souvenons-nous de l'apôtre Paul, handicapé à cause de son écharde, qui en Philippiens 4, verset 11, peut dire « J'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve, être abaissé, être dans l'abondance, être rassasié, avoir faim, être dans l'abondance, dans les privations. Je puis finalement toutes choses par celui qui me fortifie. » Alors il y a une alternative, santé ou maladie. Nous devons toujours bien avoir à l'esprit cette pensée fondamentale que durant notre passage ici-bas, nous participons tous en tant que terriens aux souffrances du monde perdu, conséquence du jugement de Dieu à l'égard du péché. Genèse 3, verset 17. Maudit est le sol à cause de toi, l'homme, il te fera germer des épines et des ronces. Si de quelque manière que ce soit, nous contractons une maladie qui engendre de la souffrance, voire même nous entraîne vers la mort physique pour le chrétien, car pour nous, il ne s'agit toujours que d'un endormissement en attendant le réveil de la résurrection, notre seule ressource est de nous confier dans la toute-puissance divine, attestant qu'il est seul capable de nous délivrer et de nous guérir. Jacques 5, verset 16, « Priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris, la fervente supplication du juste peut beaucoup. » Mais alors de deux choses l'une. Soit Dieu délivre de la maladie, soit il la maintient. Exemple, Paul, naufragé sur l'île de Malte, va guérir le père de Publius. Actes chapitre 28, verset 8. Il arriva que le père de Publius était là couché, souffrant beaucoup de la fièvre et de la dysenterie, et Paul, étant entré auprès de lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Mais curieusement, Paul, écrivant à Timothée dans la deuxième épître au chapitre 4 et au verset 20, peut dire « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Maladie, santé. Souvenons-nous de Jésus lui-même. En Marc 1, il va guérir la belle-mère de Pierre, qui s'était tant affairée, qui avait préparé un délicieux repas. Il la prend par la main, la fièvre la quitta, elle les serre. Par contre, en Jean 11, son ami, qu'il aime tant, Lazare, est gravement malade. Il reçoit la supplication de Marthe et de Marie. Il laisse mourir. Santé, maladie, le but dans toutes ces situations, c'est véritablement la gloire de Dieu. Alors comment comprendre cette alternative, santé ou maladie? Comment comprendre ces réponses divines apparemment contradictoires? En nous souvenant prioritairement que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais exclusivement à Dieu, car nous avons placé toute notre vie entre ses mains. Je reprends le verset d'1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été acheté à prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Quoi qu'il arrive, Dieu veut que nous le glorifions dans notre être tout entier, qu'il soit jeune ou vieux, bien portant ou souffrant. Toutes nos circonstances de vie, tous les cas de figure de notre existence d'ici-bas doivent être canalisés vers cet objectif unique, rendre gloire à Dieu et tout accepter de sa part comme de précieuses bénédictions. Facile dictu, difficile factu. Facile à dire, difficile à faire, et pourtant. Référons-nous toujours à l'exemple parfait, à qui rien ne fut épargné, lui qui, Hébreux 5, versets 7 et 8, durant les jours de sa chair, ayant offert avec grand cri et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et ayant été consommé. Matthieu 26, verset 37, « Lui qui fut attristé et fort angoissé jusqu'à la mort. » Il s'est complètement soumis à la volonté divine, quoi qu'il lui en ait coûté. Matthieu 26, verset 42, à l'occasion de sa deuxième supplication en Gethsémané, « Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Comme lui, notre Sauveur bien-aimé, notre Seigneur glorifié, montrons-nous capables, Romains 12, verset 2, d'être transformés par le renouvellement de notre entendement pour que nous discernions, je vous renvoie encore à la note en bas de page, discernions ou éprouvions ou examinions quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable, parfaite. même si ça fait mal, même s'il faut pleurer. Telle fut aussi l'expérience enrichissante d'un Job. Après tous ses déboires, il n'a reçu finalement aucune explication à ses souffrances. C'est pourquoi, sans demeurer sans réponse, mais par contre, Dieu lui a révélé toute sa gloire dans le cadre de la création, Job, chapitre 38 à 41. Et Dieu a ainsi souligné son omnipotence et son omniprésence. C'est alors que Job, entièrement renouvelé dans son entendement, Romains 12, peut s'écrier, au chapitre 39 et au verset 37, « Voici, je suis une créature de rien. Que te répliquerai-je ? Je mettrai ma main sur ma bouche. » Et au chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, après maintes souffrances, mon œil t'a vu. » Quelle est la position de Dieu ? Que nous soyons donc bien portants ou souffrants, rendons sans cesse grâce à Dieu qui, en toutes circonstances, reste toujours à notre entière disposition et se manifeste à notre égard par une attitude d'accompagnement efficace et bénéfique. C'est ainsi que tous les chrétiens du monde entier ont toujours tellement apprécié le psaume 23. D'une manière générale, nous savons que lorsque nous avons Dieu dans notre cœur comme berger, nous ne manquerons jamais de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand les circonstances sont favorables, quand tout va bien, il est là, il accompagne, il nous comble de bienfaits. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom, versets 2 et 3. Mais quand les choses tournent mal et que les vents sont contraires, il reste là. Il accompagne, il assiste, il rassure, verset 4. « Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. » Le Seigneur lui-même s'inscrit exactement dans la même perspective envers tous ceux qui se réclament de lui et qui se confient en lui. À la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, « Voici, moi, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la consommation du siècle. » Que les jours qui passent soient faciles ou difficiles, qu'ils soient joyeux ou tristes, heureux ou malheureux, que nous soyons en pleine santé ou affaiblis par la maladie, à l'aube de la vie comme à l'article de la mort, rendons toujours grâce au Seigneur, Hébreux 13, verset 8, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle est la communion fraternelle face à la maladie, à la souffrance et à la mort ? Tout d'abord, le vécu humain. La parole de Dieu nous enseigne, 1 Corinthiens 12, verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Souffrir avec, c'est la définition même du mot « sympathie ». Souffrir avec. Cependant, nous devons bien admettre que nous sommes tous différents dans notre personnalité, dans notre perception, dans notre appréciation du bien-être comme du mal-être. Nous réagissons tous différemment. Notre résistance à la souffrance est différente. Nous avons parmi nous des durs, nous avons des douillets. Je fais partie de la deuxième catégorie. Notre réaction est différente. On accepte, on subit la souffrance, ou on se plaint et on se révolte. Notre expression est différente. Il y a des extravertis, il y a des introvertis. Notre appartenance sexuelle aussi va influencer notre position face à la souffrance. Un homme réagira différemment d'une femme. Permettez-moi une petite confidence. Lorsque le Seigneur nous a repris notre chère Mathilde, il y a bientôt une dizaine d'années, mon épouse et moi, nous avons réagi tout à fait différemment, très douloureusement. La douleur d'une femme est très différente de la douleur d'un homme. Une femme réagit, à mon avis, viscéralement, parce qu'elle a porté dans son ventre l'être cher. Et mon épouse pleurait souvent, et ça m'énervait. Et moi, en contrepartie, pour me montrer fort, comme si, je chantonnais, je sifflotais. Et elle m'énervait, parce qu'elle pleurait, et je l'énervais, parce que je chantonnais. Et nous ne nous comprenions pas. Et finalement, on s'est parlé l'un à l'autre. réactions différentes, doux reproches. On filait peut-être vers une rupture. Combien de couples n'éclatent-ils pas lorsqu'il leur manque la position centrale? Mais la position centrale, nous l'avions. Ecclésiaste 4, verset 12. La corde triple ne se rompt pas vite. Quand on met ou quand on remet Christ au centre de sa vie, surtout dans des cas de crise exacerbés par des sentiments contradictoires, tout rentre dans l'ordre et on comprend, en se confiant en lui, de quelle manière rester unis. Et ce qui est vrai dans un couple se vérifie également au sein de l'Assemblée. Souvenons-nous-en. Quelques conseils pour aider. Dans la communion fraternelle face à la souffrance, 1. Toujours accorder au Seigneur toute priorité, Colossiens 1, verset 18, afin qu'en toute chose, il ait lui la première place. 2. Ne jamais juger celui qui souffre. Jacques 4, verset 12, « Toi, qui es-tu qui juges ton prochain ?» Matthieu 7, verset 5, « Hypocrite, ôte tout d'abord de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton voisin. » 3. Éviter tout raisonnement et autres commentaires inutiles sur les causes de la maladie. Souvenons-nous des disciples d'Emmaüs qui s'entretenaient, raisonnaient ensemble en Luc 24. Et qu'est-ce que le Seigneur va leur dire au bout de tout leur raisonnement et de leurs entretiens inutiles? Vous êtes tristes. 4. Manifester beaucoup de tolérance et faire preuve de compassion à l'égard de celui qui souffre. Ça a été le cas d'un Samaritain. Pourtant, il n'y avait pas de relation entre Samaritain et Juif. En Luc 10, verset 33, le Samaritain vint à lui et le voyant fut ému de compassion. 5. Être présent et se taire. Les amis de Job s'entendirent ensemble pour venir le plaindre et le consoler. Ils s'assirent avec lui à terre 7 jours et 7 nuits et nul ne lui dit une parole car il voyait que sa douleur était très grande. Là, ils sont très bons dans leur service d'accompagnement. Mais plus tard, au chapitre 16, Job répondit et dit « J'ai entendu bien des choses comme celle-là et vous êtes tous des consolateurs fâcheux. » À partir du moment où l'on ouvre la bouche pour juger, on devient consolateur fâcheux. Il vaut mieux être là et se taire. La présence, la sympathie suffit. Et enfin, et surtout, et aussi, prier. Romains 12, 12, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Quatrième volet, l'équilibre. On en revient à l'équilibre dans la consommation, on en revient dans l'équilibre avec le temps qui passe, on en revient dans l'équilibre dans mon corps, dans ma santé. Face à la maladie, notre attitude doit s'appuyer sur 3 fondements. D'une part, croire en toute amélioration, guérison, voire même miracle, car nous dit Jésus en Matthieu 17, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là-bas, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Luc 1, 37, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Mais d'autre part, réaliser qu'en toute chose, Dieu reste souverain et qu'il agit toujours selon son système de référence qui nous désarçonne parfois, car, Romains 11, 33, ses jugements sont insondables et ses voies sont introuvables. De plus, Dieu avouera lui-même, Ésaïe 55, verset 9, « Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ainsi, il nous faut parfois bien accepter que la volonté de Dieu est contraire à nos désirs les plus chers et opposée à nos aspirations les plus légitimes. 1 Pierre 4, 19 nous le confirme, « Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu, » je répète, « qui souffrent selon la volonté de Dieu, » remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle Créateur. Enfin, éviter toute attitude extrémiste afin de maintenir une vie de foi saine. D'une part, ni pessimisme fataliste, style défaitiste négatif, et d'autre part, ni optimisme béat, style mystique contemplatif. Le milieu, le juste milieu, l'équilibre chrétien. C'est en choisissant et en recherchant une position équilibrée et stable que nous nous sentirons forts et que nous servirons la gloire de Dieu. Notre position face à la maladie, à la souffrance et à la mort doit rester calme et sereine, assimilant confiance et dépendance. Ésaïe 30, verset 15, « Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. » C'est un équilibre fragile et ténu, mais c'est le défi que Dieu nous lance. Montrons-nous capables par la foi de relever ce défi. Quels en sont les moyens pour relever ce défi? Je reviens en terminant à la question posée par le troisième sujet de cette journée. Mon corps, ma santé, un outil pour Dieu ou pour moi? J'essaie d'y apporter une réponse. Un outil prêté par Dieu, laissé à ma responsabilité et utilisé pour sa seule gloire. Je reprends la citation de Juvénal, le poète satirique latin du début du second siècle, « Mens sana in corpore sano ». Comme nous avons découvert que dans la Bible, notre personnalité était composée de trois éléments, j'ajouterai « à l'âme saine et au corps sain, l'esprit saint ». S-A-I-N-S. Et j'ajouterai que tous nous demeurions saints, S-A-I-N-T-S, la santé et la sainteté, lesquelles plaisent à Dieu. Là aussi, puissions-nous respecter cette exhortation de l'apôtre Pierre, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, et physique, et morale, et spirituelle, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi je suis saint », 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Et les deux meilleurs moyens pour y parvenir restent toujours fondamentalement les mêmes, la parole et la prière. La parole, Jacques 1, verset 22, « Mettez la parole en pratique, ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. » Et la prière, comme David, n'hésitons pas à demander, psaume 51, verset 7, « Purifie-moi du péché avec de l'hysope et je serai pur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » En terminant, quelques souhaits. Je devrais donc vous souhaiter à toutes et à tous une bonne santé, à bien des égards. Je reprends le souhait de l'apôtre Jean, 3e épître, verset 2. Je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Mais paradoxalement, je vais plutôt vous souhaiter d'être malade. Ce n'est pas gentil. Mais d'une maladie particulièrement sensible et efficace pour l'entretien spirituel de votre être tout entier. Puissiez-vous, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, témoigner publiquement que vous avez contracté une bien belle maladie. Oh, non pas la fameuse grippe AH1N1. Mais la maladie d'amour. Oh, non pas celle que chantait si tendrement Henri Salvador en 1948. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste à côté de moi. Mais la vraie maladie d'amour, qui nous pousse à chercher et à attendre notre bien-aimé, le Seigneur Jésus, lequel nous laisse cette promesse, Apocalypse 22, verset 20, « Oui, je viens bientôt ». Puissions-nous tous et toutes, faire cette belle confession devant tous les témoins. Je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour.